Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous vous en avons proposé un avant-goût il y a 2 semaines. Dans un instant, on retrouve Mick Jagger pour l'intégralité de ses confidences en français et en exclusivité au micro RTL de Steven Bellery. Et très joli cadeau au 3210. Nous allons vous offrir des places pour aller applaudir les Rolling Stones le 26 juin prochain au Stade Vélodrome de Marseille. L'auteur des âmes grises et du rapport de Prodeck, Philippe Claudel, signe son grand retour au roman dans la veine de ses 2 chefs-d'œuvre avec L'archipel du chien, son nouveau livre qui nous sera présenté, bien entendu, par Bernard Lehu. Et puis, côté télé, ce soir sur TF1, le retour de Koh-Lanta au programme Le combat des héros. Les candidats des saisons précédentes viennent retenter leur chance. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosse.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
C'est une interview exceptionnelle que l'on va découvrir ce matin dans Laissez-vous tenter. Mick Jagger s'est confié à RTL en français avec les Rolling Stones. Il jouera le mardi 26 juin prochain au Stade Vélodrome de Marseille. Les billets seront disponibles à la vente dans 1 heure maintenant. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez pu discuter avec Mick Jagger pendant près de 20 minutes.
Oui, c'était le 27 février dernier. Mick Jagger était à Chicago pour assister à des concerts de blues. La plus grande rockstar au monde a décidé de repartir sur les routes avec son groupe. Les Stones avaient rempli 3 soirs la U Arena de Nanterre en octobre dernier, rassemblant près de 120 000 spectateurs. On pensait que le No Filter Tour était terminé. Raté, les 4 Anglais ont annoncé une prolongation de cette tournée et une date marseillaise au début de l'été.
L'année dernière, on a fait beaucoup de shows en Europe pour le No Filter Tour. Un grand succès pour nous. Alors, on fait beaucoup de shows pour l'été. Alors, Marseille, c'est le seul show en France.
La première fois que vous aviez joué avec les Rolling Stones à Marseille, c'était en mars 1966.
Oui.
Et vous aviez été blessé sur scène?
Je me souviens, j'étais blessé sur un oeil avec une chaise. Et j'étais à l'hôpital, mais c'est pas très grave. Hein. J'ai un grand bleu sur mes yeux, autour de mes yeux, comme j'étais dans une bagarre.
Mick Jagger m'a confié qu'il espérait que ça se termine un petit peu mieux cette fois. Pour cette nouvelle série de concerts, les Rolling Stones promettent des tubes, mais aussi quelques raretés. Ah. Mick Jagger.
C'est un bon exercice de chercher pour les chansons pas très connues. L'année dernière, on a fait Dancing with Mr. D, qui n'ont pas fait presque jamais. C'est pas mal cette chanson, mais il faut trouver les autres. Il y a beaucoup de chansons, mais il faut trouver les chansons que vous aimez. Mais oui, mais c'est intéressant. Pas connu par nous non plus. Alors, c'est plus difficile pour nous de faire cette chanson. Mais alors, 2, 3, 4, 5 chansons comme ça, plus ou moins, on a un choix de mettre dans un show. Si c'est bon, si c'est pas bon, on laisse tomber.
À votre micro, à 74 ans, Mick Jagger a toujours une incroyable énergie, Steven.
Oui, il apparaît sur scène comme s'il était monté sur ressort. Mick Jagger est un extraterrestre du rock'n'roll, une inoxydable superstar au charisme indémodable. D'où vient cette inépuisable vitalité et son goût de la scène? Confidence.
Non, aucune idée. Mais c'est génétique, je pense. Quand même, il faut faire quelque chose avant le début d'une tournée. Il faut préparer un peu, tu sais, des exercices, le gym. Et surtout, il faut faire les répétitions, un peu de danse. Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour préparer. Je fais la même chose pendant des années. Hein. Il faut danser, aller dans le gym chaque jour, voilà.
Ça veut dire que Mick Jagger prend des cours de danse.
Mais je m'amuse bien dans le studio de danse. 45 minutes, alors c'est la chose la plus amusante. Pour moi, le gym, c'est un peu ennuyant, mais la répétition de danse, c'est intéressant. Et après ça, vous pouvez faire toutes les choses sans problème, sans être blessé.
Est-ce que vous diriez que vous avez le même plaisir sur scène aujourd'hui que dans les années 60?
C'est différent parce que maintenant, c'est pas les petites boîtes, c'est les grands stades, cette tournée, par exemple. Et c'est différent comme ça, mais c'est plus ou moins le même plaisir.
Ça veut dire qu'au bout de plus de 50 ans de musique et de concerts, vous n'avez aucune forme d'ennui?
Non. C'est pas exactement les mêmes chansons. Il faut changer un peu chaque soir pour être toujours intéressé dans le set. Il y a beaucoup de gens qui jouent exactement la même chose. Alors, il faut les changer le début. Il faut changer un peu.
Est-ce qu'être en face d'un public, c'est aussi une drogue?
C'est pas une drogue, mais bien sûr, vous avez beaucoup d'adrénaline. Je pense comme les gens sportifs, les adrénalines, les autres choses naturelles qui coulent dans le système. Alors, il faut le contrôler un peu, mais ça devient très excitant. Et aussi, le public, s'il réagit dans une certaine façon, vous pouvez gagner un peu d'énergie d'eux.
Et donc, vous diriez que d'une manière ou d'une autre, être sur scène et continuer à faire des concerts, ça améliore votre espérance de vie?
Je pense, oui. C'est une bonne idée d'avoir un but, un boulot, quoi.
Un boulot que Mick Jagger peut toujours faire grâce à une voix qui a très peu bougé avec le temps.
J'ai beaucoup de chance dans cette discipline. Il faut préparer pour ça. Il faut faire les répétitions de voix parce que vous ne pouvez pas arriver sur scène et faire 2 heures de chanter sans répétition. Il faut faire beaucoup de répétitions, même avant la vraie répétition. Je fais ça, mais c'est très ennuyeux, mais il faut le faire.
Alors avec les Rolling Stones, Mick Jagger aura marqué plus d'un demi-siècle de l'histoire de la musique. Et j'imagine, Steven, que vous avez également parlé de sa relation avec le reste du groupe.
Eh oui, une bande qui a connu des hauts et des bas, des relations parfois tumultueuses. J'ai donc demandé à Mick Jagger si le temps et l'âge avaient apporté un petit peu de sagesse chez les Rolling Stones.
Non, point du tout. C'est un mythe. Non, mais c'est pas difficile pour nous parce que nous avons le fait pour 55 ans. Alors non, c'est pas difficile, mais il faut concentrer, il faut faire les bonnes relations entre nous et faire les bonnes répétitions.
Vous êtes surpris d'être toujours tous les quatre ensemble?
Non, pas vraiment, non.
Est-ce que vous avez décidé, Mick Jagger, du jour où vous arrêterez les tournées ou c'est quelque chose qui est encore absolument fictif dans votre esprit?
Tu peux en penser, non. À ce moment, non, je peux pas le faire, mais... Je suis pas là maintenant.
Ça veut dire que les Rolling Stones auront 60 ans dans 4 ans, c'est pas loin. Ça veut dire que vous y pensez déjà à ce que vous allez faire pour les 60 ans des Stones?
Non, je suis pas pour faire ça, moi. Mais j'espère que nous pouvons continuer pour quelques années.
Les Rolling Stones filent doucement vers leurs 60 années de carrière. D'ici là, le groupe devrait sortir un nouvel album de chansons inédites, le premier depuis Big Bang en 2005. Mick Jagger le révèle sur RTL.
À ce moment, je travaille un peu sur un nouveau album de Rolling Stones, mais je ne sais pas quand il va sortir.
Donc c'est pour ça que vous étiez en studio le 2 décembre dernier, cette photo que vous aviez mise sur Twitter.
Oui, c'est ça.
Et vous aimeriez retourner en studio dans quelques mois avec vos amis?
Oui, je pense peut-être pas avant la tournée, mais après.
Une nouvelle tournée, un projet d'album. Mick Jagger a également dévoilé 2 chansons sous son propre nom l'été dernier. En guise de conclusion, j'ai donc demandé au chanteur des Rolling Stones si parfois il réussissait à oublier qu'il est Mick Jagger.
Oui, j'espère, hein. Je suis pas toujours le monsieur qui est sur la scène. J'aime bien relaxer, tu sais, mais je travaille presque tous les jours un peu, tu sais, sur quelque chose. J'aime bien relaxer, je suis pas un addict d'être sur scène ou dans le studio. J'aime bien lire ou faire n'importe quoi, alors je suis très relax comme personne.
Merci beaucoup, Mick Jagger, c'était un plaisir.
Merci, hein. J'espère à Marseille, ok?
Rendez-vous à Marseille le mardi 26 juin, date unique française en 2018 pour les Rolling Stones. Ouverture de la billetterie à 10h.
écoute avec grand plaisir, hein, Mick Jagger à votre micro. Il est carrément gracieux, en fait, c'est ça. Il y a un côté très plaisant dans cette interview et ces confidences qui vous ont été faites. Alors ce matin, ben, nous vous offrons un cadeau exceptionnel, non, laissez-vous tenter. Des places pour aller applaudir les Rolling Stones au stade Vélodrome de Marseille. Mais pour remporter vos tickets, il faut répondre tout de suite au 32-10 à la question que vous pose Stephen Bellery.
Avant de partir en tournée, Mick Jagger prend-il des cours de golf ou des cours de danse? Golf ou danse?
Votre réponse au 32-10. Merci beaucoup pour cette interview exceptionnelle, Stephen Bellery.
Steven voulait toujours pas nous donner le numéro de téléphone de Mick.
Non, garde.
Bon, d'accord.
Il a raison. C'est un moyen de pression que je trouve assez puissant.
Ça peut toujours servir.
Vous venez d'entendre Bernard Lehu, ça tombe bien parce que dans quelques instants, il va nous permettre de rencontrer Philippe Claudel qui publie chez Stock L'Archipel du Chien. C'est son dernier roman.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bernard Lehu, vous avez rencontré Philippe Claudel qui publie chez Stock L'Archipel du Chien.
Oui, alors disons-le d'emblée, avec ce livre, Philippe Claudel signe son grand retour au roman dans la veine, vous savez, de ses deux chefs-d'œuvre, Les âmes grises et le rapport de Brodeck. Un matin, sur une île, à l'écart du monde, qu'on imagine quelque part en Méditerranée, s'échouent trois cadavres. Qui sont-ils? Et surtout, qu'en faire? Eh bien voilà, il n'en faut pas plus pour que Philippe Claudel nous piège dans un engrenage implacable.
Quand vous avez dit que je revenais au roman, c'est vrai que je reviens à un certain type de romanesque qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire où j'essaie d'entremêler des genres. Donc le roman social, le roman policier, le roman à suspense. Je suis très nourri par les fables, par les mythes, par tout le fond de légendes et de contes. Et avec toutes ces influences, j'essaie de composer un récit haletant, un récit qui prenne le lecteur, qui ne le lâche pas, qui l'entraîne dans une enquête, parce que c'est une enquête. Donc on est sur un mystère, on est sur des éléments comme ça de suspense ou de récit policier. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'amener justement le lecteur ailleurs, de dépasser ce pittoresque et de l'amener face à des grandes questions. Mais en laissant le jugement, la conclusion, la vérité, j'allais dire, au lecteur. Je ne veux rien imposer. Avant toute chose, le plus grand plaisir quand même pour moi, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que la fiction, on en revient toujours à ça, on en revient à l'attitude enfantine. Quand un adulte, un papa, une maman, un frère, une sœur vous raconte une histoire, moi j'essaie toujours de raconter une histoire au lecteur.
Raconter une histoire. Alors, sans dévoiler tout le mystère qu'évoque Philippe Claudel, que va déclencher la découverte de trois cadavres sur l'île imaginée par l'écrivain?
Eh bien, l'affaire va devenir un terrible révélateur de l'indifférence et de la bassesse qui égare parfois les hommes et en font des chiens pour leurs propres congénères. Philippe Claudel fait de son histoire une parabole cruelle du drame des migrants et il n'est pas bon être celui qui tente de les comprendre, de prendre leur défense, à l'image ici de l'instituteur de l'île.
C'est celui qui cherche à savoir. Or, on ne veut pas savoir, donc il va y avoir autour de lui une machination dont je ne dirai rien, mais qui va le désigner comme une victime idéale, même si à un moment, il se trouve blanchi, mais la rumeur a été telle, les fameux fake news, cette espèce de calomnie qui aujourd'hui
l'air de la calomnie, évidemment.
Nous sommes dans un monde qui est complètement gangréné par la calomnie, où il suffit de dire du mal de quelqu'un pour que cette parole reste, alors même qu'on pourrait ensuite le disculper de toute faute, il restera toujours cette calomnie première.
La figure du bouc émissaire, c'est un grand classique dans l'œuvre de Philippe Claudel.
Ben oui, bien sûr, on l'a retrouvé dans Les âmes grises, aussi dans le rapport de Brodeck. Alors, si la lecture de L'archipel du chien nous envoûte à ce point, c'est aussi parce que l'auteur des âmes grises, justement, lui donne des accents de récit fantastique, avec entre autres la présence permanente et menaçante d'un volcan, le Brao, comme la métaphore d'une punition divine contre les habitants de l'île.
J'imaginais les volcans, je suis allé en visiter quelques-uns dans le monde, ils me sont toujours apparus comme de gros animaux endormis, même nos chers volcans
auvergnats,
sont des puissances qui à la fois me fascinent et m'inquiètent. On a l'impression qu'en dessous, quelque chose se passe, quelque chose étant dans une espèce de potentialité qui pourrait surgir. Et dès lors que s'échappent des fumées, dès lors que gronde la bête, on a l'impression effectivement de redevenir un petit garçon d'un conte fantastique sous la menace de quelque chose qui le dépasse.
Et puis, comment ne pas finir sans souligner la beauté et la puissance du style de Philippe Claudel dans plusieurs scènes d'anthologie, j'insiste, en particulier, une pêche au thon ancestrale, hallucinante et sanguinaire.
L'écriture est quand même une drogue dure, quoi. C'est pas un mot en l'air. C'est-à-dire que on a la chance parfois, c'est pas toujours le cas quand on écrit, même dans un roman, on n'est pas toujours dans cet état, mais parfois on est emporté, on est dépassé complètement par ce qu'on fait, et il en résulte une sorte de sentiment d'ivresse, comme ça, quelque chose qui nous fait perdre un peu les moyens pour être complètement dans les mots, dans l'atmosphère, et je dois reconnaître que c'est très grisant.
Et ça a été le cas pour ce passage.
Ça a été le cas pour les scènes que vous citez et d'autres aussi dans ce livre-là, oui.
Philippe Claudel, au meilleur de son talent, et ça fait vraiment plaisir, dans L'archipel du chien, à lire, vous l'avez compris, sans hésitation, et c'est publié chez Stock.
À cet auteur, une puissance d'évocation exceptionnelle. Merci beaucoup de nous avoir fait passer un moment avec lui. Le livre, donc, paraît chez Stock dans quelques instants. Nous parlons de nos audiences télévisées d'hier et des émissions que nous regarderons ce soir avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et alors, moi, je veux un jingle pour les audiences.
Ah, ben oui.
Faites votre boulot, on verra.
Voilà.
Merci. Tout de suite, c'est mieux, ça dynamise. Avec Médiamétrie.
Avec Médiamétrie, trois polars sont en tête. D'abord, évidemment, Section de recherche sur TF1. Près de 6 millions de téléspectateurs et 25% du public. Audience très, très éclatée. Deuxième position, Scorpion sur M6. 2,6 millions quasiment et 11% du public sur la 6. Et en troisième position, Happy Valley sur la 3. La déception est pour l'émission politique de la 2. Gérald Darmanin séduit moins de 1 500 000 personnes et moins de 5% du public. Donc, sur la 2. Et côté TNT, bah, c'est évidemment le foot, W9 qui est en tête. Alors Lyon, CSKA Moscou, c'est comme ça que vous dites. Eh bien voilà. Tout est dit. Et Lyon a perdu, c'est dommage.
Lyon a perdu. Bah,
moi,
voilà,
je soutiens Lyon.
Mais ils n'ont pas été très bons hier soir.
Moi,
je vous le dis, mais j'ai assisté à ça. Moi, maintenant, je veux un générique.
Eh oui.
Ce soir, redémarrage sur TF1 de Koh-Lanta avec le combat des héros. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, pour cette 19e édition, 5e spéciale, TF1 redonne une chance à tous ceux qui éliminaient en cours d'aventure naguère, ou en finale.
Jadis.
Oui, jadis et naguère avaient gardé un goût d'inachevé. C'est évidemment le couteau suisse Denis Brognard qu'on retrouve en maître du jeu, entre Aventure Robinson, Ninja Warrior, Automoto, etc. Bref, il est partout et donc de nouveau là ce soir. Pas vrai, Denis Brognard ?
Ben, Koh-Lanta, c'est pas une surprise maintenant. Ça fait 16 ans que j'anime cette émission avec beaucoup de bonheur. On tient là une très belle saison. Les candidats, les 18, viennent avec un vrai esprit de revanche. Et puis le site, les Fidji, je peux vous dire, moi, pour y avoir passé 4 mois en tout, que c'est un endroit absolument merveilleux. On a l'impression que c'est sorti de terre uniquement pour permettre le tournage de Koh-Lanta. Et ce qui est fabuleux, ils sont tous persuadés, avec leur expérience passée, qu'ils peuvent gagner. Et puis vous avez aussi ceux qui ont perdu en finale. Et quand on a goûté à cette sensation de presque gagner, on n'a qu'une seule envie, c'est cette fois-ci de gagner. Je peux vous dire que cette année, il y a une énorme surprise. On a intégré l'île de l'exil. Le candidat qui est éliminé au conseil va sur une île et attend l'éliminé suivant. Et ces deux aventuriers vont disputer un duel. Dans l'arène des duels, le gagnant repart sur cette fameuse île de l'exil et attend l'éliminé suivant pour disputer un nouveau duel. Au total, il peut y avoir 6 duels. Et celui ou celle qui sortira gagnant de ce 6e et dernier duel, eh bien, reviendra dans l'aventure comme si de rien n'était.
Voilà, ils verront bien dans l'émission.
Steven est très impressionné.
On retrouvera le musclé Yacine 2017, Pascal 2015 et Clémence Machouchou qui a été gagnante en 2005 mais perdante 4 ans plus tard dans l'étoffe des héros. Elle voudrait donc être la première à gagner 2 fois Koh-Lanta. Je la soutiens. D'abord, elle est le 1er octobre.
Après l'Olympique Lyonnais, c'est mal parti. Alors, signalons aussi la reprise de K1 sur la 2 et puis une émission de Mireille Dumas consacrée sur la 3 aux humoristes.
C'est formidable.
Et la famille, voilà. Et puis demain samedi, sur TF1.
Oui, la première des 3 émissions de l'audition finale, ça veut dire que chaque candidat doit reséduire son coach en se sortant de sa zone de confort, en faisant l'inattendu. On en reparlera la semaine prochaine, d'autant qu'il y aura tous les changements à vous signaler, car il y a plus urgent en ce moment-là. Immédiatement. Car demain sur la 3, on retrouve un certain Michel Simès. Dans quoi au fait, vu tout ce qu'il fait ? Hein, Michel, c'est quoi cette fois ?
Pourquoi c'est cette fois ?
Ouais.
Un meurtre. Ah, voilà, mais sinon c'est tout, j'ai pas de droit.
Bah alors, le pitch, comme ils disent maintenant.
Eh bien, c'est un meurtre qui se passe dans le monde de l'ostréiculture. Je suis médecin légiste et je vais aider une enquêtrice. Il y a plein de choses que j'ai pas le droit de vous dire, Isabelle.
Oui.
J'ai eu beaucoup de chance. France 3, souhaitant que je joue le rôle, m'a fait rencontrer les auteurs avant qu'ils n'écrivent. Et donc, les auteurs se sont adaptés à ma personnalité. Ce côté un peu caustique, c'est du sur-mesure.
Dans vos premiers projets de fiction, il y avait des questions d'un vétérinaire.
Oui, des sketchs. Après, il y a un truc avec Bruno Solo. Mais c'est pas enterré. Hein. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Je vais attendre de voir la réaction du public.
Ça font bien la chaîne aussi.
Ouais. Je vais voir ce que je ressens, moi, en le voyant. Et si ça se passe bien, à ce moment-là, je verrai si je fais autre chose.
Ça me semble
le
sage.
Le vétérinaire à qui la médecine cassait les pieds, selon
absolument.
Une formule,
voilà. Voici donc le début. Un cadavre est retrouvé recroquevillé sur une tombe anonyme protestante, comme l'explique notre légiste à l'enquêtrice, qui est très agacée qu'il ne se présente pas.
On ne s'est pas présenté ?
Non. Docteur Vincent Lazare, médecin légiste, historien local.
Capitaine Judith Valette, vos premières impressions ?
Ah bah, vous avez touché le gros lot. Hein. Un corps nu, recroquevillé, en position fœtale, sur une tombe, dans un cimetière abandonné. Vous aurez des trucs à raconter à vos enfants ?
Mais j'ai pas d'enfants.
Bah, ça viendra.
Voilà. Il joue juste,
il
mon
bon,
Michel.
Hein. Il s'appelait Lazare pour un légiste, c'est presque de la provocation.
Bravo, nous avons terminé ?
Oui, nous avons terminé. C'est une bonne surprise, moi j'ai beaucoup aimé.
Eh ben voilà, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bon, bah on va distribuer nos places pour les Rolling Stones. Hein. La question qui était posée, c'est avant de partir en tournée, Mick Jagger prend-il des cours de golf ou des cours de danse ?
Eh bien, ce sont des cours de danse.
Oui, on ne peut pas dire que c'était très méchant comme question.
Non,
mais ça vous permettra.
On est généreux
d'aller découvrir les Stones.
Ouverture dans 30 minutes de la billetterie.
Au stade Vélodrome de Marseille et ouverture de la billetterie dans très exactement 30 minutes. Merci à toute l'équipe de laisser vous tenter. Avant de rejoindre Julien Courbet, un petit mot pour vous dire que nous vous retrouvons lundi dans de nouveaux studios à Neuilly. C'est une nouvelle aventure qui démarre pour la première radio de France. Nous avons adoré la rue Bayard, où l'histoire d'RTL s'est construite jour après jour, dans ce studio Pharan, où les écrits d'Hubert Beuve-Méry sont inscrits sur les murs. Et nous avons hâte de vous retrouver dès lundi, dans nos nouveaux studios, où nous écrirons ensemble une toute nouvelle histoire de radio, avec vous, auditeurs d'RTL, et toutes les équipes qui m'entourent. Bon week-end à tous. Tout de suite, Julien Courbet, qui en plus, aujourd'hui, vous offre une voiture dans son émission.
Mais surtout, qui va rester, lui, lundi, il sera tout seul, Julien Courbet, j'ai l'impression.
Ah oui ?
Ah bah nous, on est les derniers. Je peux vous dire que normalement, les murs vont tomber juste après notre émission. Non, jusqu'à mardi soir.
Mais alors, on va vous envoyer des bougies mais et puis des éclaireurs.
Et là, ouvrons tout de suite le calendrier. Je suppose que, comme tous les enfants, vous êtes impatients. Vous connaissez les calendriers de l'Avent.
Bien entendu.
25 jours avant Noël, les enfants ouvrent le petit tiroir pour découvrir une friandise. Eh bien, voici maintenant le calendrier de la SNCF. Chaque jour, ouvre ton application et découvre à quelle heure le train fera grève. Et ce, pendant 36 jours. Amusez-vous bien les enfants et bonne route dans ces nouveaux studios.
Merci.
Bonne émission.
Au revoir.